France Culture. Les nuits de France Culture.
À chacune des éditions des Jeux Olympiques sont attachés des noms, des visages, des histoires, heureuses ou dramatiques, qui, en s'inscrivant dans les mémoires, font la légende des Jeux. À chacune des Olympiades, son lot d'émotions, de joies, de déceptions, d'exploits et de contre-performances. À chacune, la révélation d'un visage, d'une personnalité qui fait chavirer le public des stades et les foules de ceux qui, depuis les années 50, suivent les Jeux par écran interposé tout autour de la planète. Dans le quatrième volet de la série qu'elle consacrait en 2008 à l'événement olympique, c'était à ces sportifs qui avaient, en triomphant ou en trébuchant, conquis les cœurs des plus connaisseurs comme des plus béotiens des spectateurs, que s'intéressait Aurélie Luneau. Une émission dans laquelle témoignait notamment Michel Jazzy, qui rappelait l'accueil que lui avait réservé le public après son échec sur 5000 mètres à Tokyo en 64, la nageuse Christine Caron, qui se souvenait de l'enthousiasme suscité par la médaille d'argent de l'adolescente qu'elle était encore à Tokyo, et l'enfant gymnaste roumaine Nadia Comăneci, qui avait fait sensation aux Jeux de Montréal en 1976. Le cœur des Jeux, quatrième partie, les médaillés du cœur, une émission diffusée le 17 août 2008 sur France Culture.
Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux chantons l'essor de la jeunesse, qui se moquant de la gloire, vole vers la victoire. Chantons tous en cœur, les performances et les vainqueurs, allons sans peur, joyeux et forts, ivres d'effort, chantons vive le sport.
Pour moi, Marie-Josée Pérec en 92 à Barcelone,
Johan
ça, ça a été vraiment grandiose. Ensuite, il y a eu bien sûr les Bargeaux avec la bande à Jackson Richardson aussi en 92. Et puis après, il y a encore eu Marie-Jo en 96 à Atlanta qui fait le doublé 200-400.
Marie-Josée Pérec à la lutte avec Brice Guinan, les deux femmes au coup d'à-coude. Marie-Josée Pérec qui grimace, elle a un mètre d'avance. Elle va être championne olympique. Elle est championne olympique. Elle a gagné.
La médaille d'or de Jean Galfione. Enfin, pour moi, ça a été déjà des grands souvenirs. Après, il y a eu aussi la finale du 100 mètres à Séoul. Je me souviens, bon, j'étais jeune, j'avais 10 ans. Et c'est vrai que je me souviens aussi de cette finale du 100 mètres avec Ben Johnson qui avait dominé outrageusement la finale du 100 mètres. Mais bon, enfin, les Jeux Olympiques, c'est plein d'histoires tous les 4 ans. Quoi. Il y a tout le temps plein de pages d'histoires qui s'écrivent à l'occasion des Jeux. Quoi.
Les finalistes sont maintenant dans les starting blocks. Cathy Freeman est au couloir 6 dans une combinaison intégrale avec cagoule, jaune et verte. Il n'y a plus un bruit dans le stade olympique. C'est parti, les 110 000 spectateurs hurlent. Le stade olympique change de couleur à cause des flashs des appareils photo. Le stade brille. Cathy Freeman l'emporte en 49 secondes, 11 centièmes.
Declare open the games.
Le cœur des Jeux. Aurélie Luneau, Gilles Davidas.
La vasque s'allume, illumine.
Quatrième volet, les médaillés du cœur. Ces pages d'histoire qui s'écrivent tous les 4 ans racontent des heures de gloire et des dixièmes de secondes qui font basculer une vie. Pierre de Coubertin voulait que les Jeux Olympiques soient l'occasion de rassembler l'élite sportive internationale et d'exalter les qualités du corps et de l'esprit. Allier la joie à l'effort, le dépassement de soi au respect de l'autre, c'était son objectif, une ambition qui a conquis le public et produit des héros dans l'enceinte olympique. Parmi eux, Jesse Owens à Berlin en 1936, Wilma Rudolph, la gazelle noire, Colette Besson, le sauteur Bob Beamon, le nageur Mark Spitz, Nadia Comăneci, Sergei Bubka, Alain Mimoun ou encore Émile Zatopek et tant d'autres inscrits dans la mémoire collective. Des médaillés, mais aussi des athlètes sans titre conquis qui ont su toucher le cœur du public.
Michel Jazzy, avant d'être vous-même un participant des Jeux Olympiques, est-ce que vous les suiviez, vous, dans la presse, à l'époque ?
Oui, je dois dire qu'à une certaine époque, j'ai suivi et j'ai été sensibilisé par les Jeux Olympiques, surtout par des résultats en 1952. Je n'étais donc pas très âgé, j'avais 15 ans, et 16 ans même, et je dois dire qu'il y a un résultat qui m'est resté dans la tête, les 7,54 m à la longueur de Ignace Henrich, qui était décathlonien. Et ça, c'était une très belle performance, pour l'époque, bien sûr. Et j'ai été sensibilisé. Puis aussi, quand j'étais gamin, j'ai lu les livres illustrés sur la vie de Jules Ladoumègue, et qui est bordelais d'origine, et qui m'a énormément marqué, puisque par la suite, il était devenu un grand champion, recordman du monde, également médaillé olympique, tout comme moi. Pas médaille d'or, malheureusement. Et on a connu la même mésaventure dans la dernière ligne droite dans les Jeux. Lui, c'était à Los Angeles et moi, c'était à Tokyo.
Mais l'événement le plus important, c'était la finale du 5000 mètres, cette finale que tout le monde attendait, cette finale que les Français attendaient avec une toute particulière impatience. Mais je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Nous allons entrer immédiatement dans le vif du sujet. Écoutez les derniers tours de cette finale.
Allez, voilà les deux grands favoris qui se retrouvent, Jazzy et Bob School. Jazzy force, et School va-t-il le passer? Oui, il reste 80 mètres, et l'Américain Bob School passe Jazzy. Et Northcott va passer Jazzy également? Non, je ne pense pas. Premier School, deuxième Northcott, troisième Michel Jazzy, quatrième Dellinger, cinquième Kenyo, sixième Bailly. Ah, bien, on vous l'avait dit, Bob School est un sprinter fantastique. Michel Jazzy a peut-être eu tort de spéculer sur sa vitesse terminale, mais Bob School l'a passé irrésistiblement à 80 mètres de l'arrivée. Nous avons deuxième l'Allemand Northcott et troisième, bien, ou bien Michel Jazzy, ou même éventuellement l'Américain Dellinger, qui est revenu en force dans la dernière ligne droite.
Eh bien oui, j'avais raison de dire éventuellement quatrième Jazzy, car effectivement le classement nous indique que Michel Jazzy n'a même pas obtenu une médaille ici à Tokyo.
Je veux dire une chose, pour moi c'était ma dernière compétition internationale et ce qui m'importait plus c'est la médaille d'or, le restant ça ne m'intéressait pas. C'est pas que, je veux dire ça ne m'intéressait pas, ça aurait été bon à prendre, mais enfin, je visais surtout la médaille d'or.
Michel Jazzy, vous allez entrer dans ce cercle des héros alors, qu'est-ce que ça veut dire être un héros? Un
héros olympique, c'est quelqu'un qui est admiré par toute la population, pas simplement des jeunes, mais toute la population, aimer des jeunes, des moins jeunes et puis des personnes âgées. J'ai eu la chance d'être soutenu par ces trois générations et disons, dans ces cas-là, on doit pas se prendre pour un héros, on est un personnage normal. Hein. On fait partie de la vie exceptionnelle que nous vivons. Et une fois que la carrière est terminée, c'est là qu'on s'aperçoit que personne ne vous tape sur le dos et on s'aperçoit qu'on est finalement un être comme tous les autres.
C'est la première fois que je faisais une compétition aussi importante.
Christine Caron.
Puisqu'à l'époque, on ne bougeait pas comme maintenant où tout le monde se rencontre. Donc les Américaines, je ne les avais jamais rencontrées. C'était une vraie inconnue. Mais bon, j'y allais avec mes 16 ans. Hein.
Le pistolet est levé. Ça va être le pré-traditionnel dit en japonais.
Je ne suis que sur la course. Je suis sur rien d'autre. Avec des petits tics que l'on fait avant parce que, en fait, ça nous aide sûrement à nous concentrer. Et puis on est dedans. On oublie tout. On est dedans. On attend les ordres du starter. Voilà, quoi. Et puis.
Bien que le français soit dans l'Olympique, ça y est, prêt.
Vos tics, c'était quoi?
J'essuyais le numéro de ma ligne, je me gonflais les joues. Enfin, c'est des choses que l'on voit après et on voit que je le fais tout le temps. Donc voilà, mais ce sont des façons de faire qui, en fait, sûrement me permettaient de me concentrer, de me mettre vraiment dans ce que j'avais à faire.
C'est toujours Christine Caron qui est à tête à 20 mètres de la ligne d'arrivée. Toujours Caron, mais je vous assure que l'Américaine Ferguson est très très près de Caron. L'Américaine Ferguson passe légèrement en tête, j'espère que Christine soit battue. Oui, attention, c'est première Ferguson, deuxième Caron, troisième Américaine.
Et la montée sur le podium, Christine Caron?
C'est encore quelque chose qui est très, très fort. On est un peu sur un nuage quand même, d'abord parce qu'on est crevé. Et comme les deux Américaines qui sont montées aussi sur le podium, on était devenues copines, on avait toutes à peu près le même âge, donc j'avais l'impression de partir sur le podium avec des copines, quoi. En fait, c'est un peu ça. Et puis après, bon bah, on vous jette dans la cage au lion parce que bon bah, vous avez bah, toute la presse mondiale.
Christine Caron, vous avez quand même le sourire de vos 16 ans, alors.
Ah oui.
Pourquoi vous n'êtes pas déçue pour cette défaite?
Une défaite? Pas du tout une défaite.
Vous êtes contente de cette deuxième place, alors?
Ah oui, très.
Et votre temps vous satisfait aussi?
Oui, en
vrai. Alors, comment ça se fait que vous n'êtes pas déçue? Vous pensiez bien avoir la médaille d'or, quand même, non? Christine Caron est en train de bénéficier Ferguson.
Oh, for you! For you, all the time!
Vous pensiez qu'elle ferait ce temps-là, Cathy Ferguson?
Oh, oui, je crois. Non!
Cathy Ferguson demande un peigne en ce moment à Christine Caron. Mais je suis comme surpris que vous ayez le sourire. Vous êtes contente d'être battue?
Mais oui, mais regardez les temps, dites!
Alors vous devez...
Quand vous êtes quand même aligné, le public n'attend qu'une chose, c'est le coup de feu. Vous, ce public, vous le percevez, vous le sentez, Roger Bambuck?
Non. Non, non, je n'ai jamais perçu le public. Le sport que j'ai fait, c'est un sport qui était une grande chance, dans la mesure où c'est un sport qui est simple. On n'est pas en contact avec le public, on ne se pose pas de questions. Mais le public, moi, je suis toujours surpris quand j'entends les athlètes dire « le public », il fait « bon, c'est possible qu'ils aient changé ». Mais moi, je n'ai jamais eu ça. Le public, qu'il y ait 80 000 personnes ou qu'il y ait personne, c'était pareil. La seule chose que je regardais, c'était les adversaires, et je les regardais avec de l'amitié, de l'affection, plus en partenaire qu'en adversaire. Sans eux, la compétition n'a pas du tout le même sens.
Vous restez pour les Français un héros, puisqu'il y a ce fameux accueil à Orly après les Jeux de Tokyo, Michel Jazzy.
Vous avez raison de me le rappeler. Oui, j'étais très surpris de voir Orly, 6000 personnes, et je me disais, bon, ben, je vais passer par la petite porte comme ça, et je vais pas entendre de mauvaises réflexions. Et là, les gens étaient là pour m'accueillir et pour m'encourager et me soutenir en espérant que je poursuive ma carrière, puisque j'avais déclaré, c'est terminé ma carrière, je l'ai arrêtée aux Jeux de Tokyo, je ne la poursuis plus. Alors là, j'ai été encouragé, j'ai reçu de la poste bourré de cartes postales, de lettres, je ne vais pas dire 100 000 lettres, mais 10 000 lettres, c'est certain que je les avais. Les gamins avaient dessiné des médailles d'or et j'avais eu des cartons ronds avec de tout doré tout autour, marqué dessus Michel Jazzy, champion olympique. Bien sûr, je ne suis pas resté insensible.
Prêt, messieurs, partez. Voilà, cette fois-ci, c'est bien parti avec un excellent départ de Linford Christie au centre. Linford Christie qui, pour l'instant, est en tête après 70 mètres de course. Linford Christie qui va remporter le 100 mètres olympique. Il gagne le 100 mètres olympique. Christie, le champion d'Europe.
Raymond Pointu, vous avez été longtemps journaliste à l'AFP. Vous, les héros que vous avez envie de désigner dans cette histoire des Jeux olympiques, certains vous ont touché plus que d'autres?
Ah oui, 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 oui. Notamment Tommy Smith, qui était sans doute le plus beau sprinter que j'ai vu en 20 ou 30 ans d'athlétisme. C'était vraiment une merveille humaine, quoi.
Est-ce que le public olympique est un public spécial?
Ouais, mais je dirais que sa nature a changé, parce que à l'origine, c'était surtout des amateurs de sport, quoi. Et on a vu une importance de plus en plus grande prise par les sponsors et leurs invités, qui ont des masses de billets réservés. Et alors, il se passe des choses effarantes. Vous voyez, au moment de la finale du 100 mètres, qui est un grand événement quand même aux Jeux, vous voyez toute une partie des gradins du stade qui est déserte. Puis les gens arrivent 10 minutes avant la finale du 100 mètres, ils regardent la finale du 100 mètres et puis ils partent un quart d'heure après, quoi. Et cette partie du stade reste vide. Le public a évolué, mais pas dans un très bon sens, quoi. Je veux dire qu'avant c'était vraiment des amateurs, des connaisseurs du sport, et que maintenant c'est un phénomène beaucoup plus mondain, quoi. Et que la population locale a pas toujours, d'abord les billets sont très chers, n'a pas toujours la possibilité de participer à cet événement.
C'était la nuit des étoiles, la nuit américaine, la nuit de Carl Lewis, la nuit de Michael Johnson et aussi la nuit de la French, Marie-Jo Pérec.
Attention, prêt, partez, Marie-Josée Pérec vient de s'élancer, elle a pris un départ en calquant sa course pour l'instant sur Cathy Freeman, elle a déjà remonté presque 3 mètres à Cathy Freeman, mais Youssouf a pris également un très bon départ de l'autre côté, Marie-Josée Pérec qui attaque la dernière ligne droite.
Attention, elle est en train de faire le quart, de creuser l'écart, Marie-Josée Pérec, elle est à nouveau championne olympique, 48 secondes.
Une nuit que seuls les Jeux peuvent nous offrir, le stade olympique, ses 83 000 spectateurs ont brillé de mille feux et 3 athlètes hors normes sont entrés dans la légende. Marie-Jo de France, Marie-Jo de Basse-Terre a donc réalisé un magnifique doublé sur 400 mètres, record de France, record olympique dans sa foulée. Sur le podium, Marie-Jo Pérec avait le regard lointain, là-haut, très haut dans le ciel.
On a l'impression qu'il y a un public particulier dans cette enceinte olympique, c'est vrai Laura Flessel?
C'est un public passionné de sport. On rencontre en fait des familles qui, grâce aux Jeux, ont permis en fait de vivre en fait des grands moments forts, qu'ils ont permis de participer. Et là, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à une petite famille pas très loin de Créteil. On les a rencontrés à des Jeux et à travers mes quatre Jeux, en fait, il y a eu une naissance et j'ai eu en fait la carte de la famille avec les trois petites têtes. La dernière, c'est une petite fille. Et ce sont des gens qu'on a rencontrés à des Jeux olympiques et qui ont suivi en fait en parallèle. Et c'est vrai que le fait d'avoir reçu cette carte de naissance, ben pour moi c'était vraiment un mouvement fort dans le sens où je me dis je ne fais pas que pour moi et ces gens qui se déplacent, pour nous c'est nos boosters en fait et on a besoin de moments forts, de moments intenses, de moments où on est en harmonie, où on est en paix avec ce qu'on voit et c'est vrai que le sport véhicule vraiment des valeurs, je dirais, qui contamine en fait, souvent les Jeux c'est en positif, mais en fait c'est vraiment sous des couleurs de l'amitié, de la passion, du sport, et ça on le voit tous les 4 ans, et ça c'est génial.
Les téléspectateurs qui suivaient par exemple hier soir les épreuves de gymnastique ont pu s'étonner des notes faramineuses souvent attribuées. Comment peut-on arriver à donner 10 sur 10 à une gymnaste, comme nous l'avons constaté hier encore? Eh bien, Monique Carra a posé la question à Michel Thiébaud, juge international, en ce moment même à Montréal.
On a dû donner 10 parce qu'on était parti vraiment très haut pour les premières notes et que les premières gymnastes qui ont passé, n'ayant pas la valeur de Nadia, on a été obligé par la suite de monter tout de suite les notes pour les très bonnes gymnastes soviétiques et roumaines. Et on s'est trouvé bloqué en somme, et pas pouvoir aller. Je pense moi aussi que la différence entre le travail fait par Nadia Comaneci et les soviétiques aurait dû avoir un plus grand écart par rapport aux gymnastes qui avaient passé autour d'avant.
Prima Olympiade a fost în anul 1976 la Montréal.
Les premiers Jeux olympiques, c'était en 76 à Montréal, où j'ai eu la première note de 10. Ma génération s'en souvient sans doute, l'ordinateur n'était pas réglé pour une telle note, et il a affiché la note 1.00.
Les entraîneurs ne la quittent jamais, elle parle à peine, eux articulent pour elle et parfois manipulent. Mais en tout cas, Monique Carra a réussi à s'entretenir avec elle en français, c'est déjà un exploit.
Je suis content.
Est-ce que ça a été très difficile?
Non, ce n'est pas très difficile.
Il a fallu beaucoup travailler.
Oui, je travaille.
C'est une école spéciale de gymnastique que vous êtes.
C'est une école où nous ferons école et gymnastique.
C'est ça. Et qu'est-ce que vous préférez, l'école ou la gymnastique?
La gymnastique et puis l'école.
Alors, comment se passe une de vos journées?
Le matin, je vais à l'école. Et puis, 4-5 heures. Et puis, je mange. Et après-midi, je fais entraînement. 3 heures par jour.
Là, maintenant, vous allez vous reposer un petit peu.
Oui, je vais... Je veux travailler pour Moscou. J'espère que je fais un bon résultat.
Alors, Nadia Comaneci, après les Jeux Olympiques de Montréal, on a parlé de vous en disant Nadia, femme oiseau, fille liane, la petite fée de la gymnastique. En fait, à 14 ans, vous êtes devenue une icône.
Da, mulțumesc.
Comment vit-on cette célébrité, Nadia, cette fusion avec le public ?
À
14 ans, on comprend très peu. Moi, j'ai fini les Jeux Olympiques à Montréal, après quoi j'ai eu 3-4 jours de repos et j'ai recommencé les entraînements. Ma vie n'avait pas changé. C'est vrai que je suis devenue très connue, pas seulement en Roumanie, mais partout dans le monde, mais j'ai réalisé cette chose beaucoup plus tard. J'étais trop petite pour comprendre ce qui se passait.
Et en même temps... Dans cette enceinte olympique, Nadia Comaneci, 10-10 au bar asymétrique, le premier 10 de l'histoire olympique, vous avez senti quand même le public, la présence, l'ambiance, les silences, mais aussi les clameurs.
Je l'ai senti, même si, quand on est sur la poutre ou au bar asymétrique, il faut faire abstraction de tout ce qui se passe autour pour être concentré. J'ai pourtant entendu des soupirs, des exclamations, des applaudissements. Et bien sûr, c'est très important de sentir que le public est avec toi. Ça te donne un peu plus d'énergie pour faire bien ton travail.
L'Amaury, Catherine pleure, de l'or pour le sabreur, un plouf pour la nageuse. Aux Jeux Olympiques de Séoul, Catherine Plevinsky a raté les trois marches du podium en arrivant seulement quatrième dans le 100 mètres papillon.
Sports et musique, une émission de Georges Briquet et Jean Rénal.
C'est comme un laboratoire.
Benoît Emmermann.
Qu'est-ce que c'est le métier de journaliste ? C'est de raconter des histoires, c'est de servir de trait d'union. Donc vous avez là une profusion d'histoires. Vous avez le monde en raccourci. Moi j'ai toujours dit que le sport c'était un peu une sorte de reflet de la société. Et vous avez tout. Vous avez les riches, les pauvres, les tricheurs, les bons, les généreux. Vous avez tout sous les yeux et tout ça de manière un peu métaphorique. Et vous avez des formidables histoires. L'une des plus belles histoires que j'ai jamais racontées c'était ce pauvre Ghanéen boxeur qui s'est entraîné pendant 4 ans pour participer enfin aux Jeux Olympiques et quand il monte sur le ring, il se retourne vers son entraîneur pour enfiler ses gants et son entraîneur lui dit « Mais quels gants ? Mais tu n'as pas mes gants ? Non, j'ai pas tes gants. Mes gants, on les a oubliés au village. » Ils avaient oublié ses gants, évidemment il n'y avait pas de gants de remplacement, la minute était passée, il était éliminé, il est rentré dans son pays. Là on est devant le tiers-monde qui est confronté à un problème technique et qu'il ne peut pas résoudre. Donc des histoires comme ça, vous en avez des milliers. Et ce n'est pas que des histoires de médailles d'or, pas que des histoires de records. Il y a vraiment un panel des possibilités énormes.
En 1968, à Mexico, c'est le Tanzanien John Stephen Akuari qui a ému le public. Blessé lors du marathon, ce sportif mit un point d'honneur à franchir la ligne d'arrivée. Avec près de 2 heures de retard, une jambe ensanglantée, il fut accueilli par des applaudissements et déclara à la presse « Mon pays ne m'a pas envoyé à Mexico pour commencer la course, mais pour la finir. »
Il a été acclamé par très peu de monde, hein, parce que effectivement, il a pris le départ du marathon, et il était un peu blessé, puis sa blessure s'est aggravée pendant le marathon, et donc il a fini 2 heures après tout le monde, ou quelque chose comme ça. Et quand la légende veut même que quand il est arrivé au stade, les portes étaient fermées. Et donc, il a secoué la grille pour qu'on lui ouvre la porte du stade. Et il restait là quelques spectateurs et des journalistes. Mais
il avait voulu finir le marathon quand même.
Il avait voulu finir parce qu'il savait les sacrifices financiers que ça représentait pour son pays. D'ailleurs, il a été invité aux Jeux de Sydney, je crois. Il est revenu aux Jeux de Sydney et c'était un homme très sympathique. Ouais.
Il y a eu,
Johan Diniz.
Pour moi aussi, à Bébé Bikila qui a gagné le marathon à Rome en 60 à pieds nus. C'était l'Éthiopien qui venait un peu de nulle part et qui gagne ce marathon aussi. Ça a été vraiment quelque chose. Pour moi, ouais, ça a vraiment été des héros. Quoi.
Héros, parce que ça me concerne.
Roger Bambuc.
Avec mes yeux d'adolescent. d'avoir vu Abebe Bikila passer la ligne du marathon à Rome. C'était une très belle image, c'était très fort, ça c'est inscrit dans ma mémoire, surtout que passer sa ligne d'arrivée, normalement le marathon, on peut penser que l'athlète est fatigué, mais lui, il a fait quelques mouvements d'assouplissement, ce qui était d'une très grande sagesse en soi.
Et il était pieds nus ?
Et il était pieds nus.
Parce qu'il y a les héros, Benoît Hemmermann, mais il y a aussi les chouchous du public. Et ces chouchous, ce sont parfois les perdants, mais qui ont montré un tel dépassement d'eux-mêmes qu'ils deviennent véritablement des héros dans cette enceinte-là.
Oui, tout à fait. À Munich, en 72, les organisateurs avaient demandé à 8 cinéastes de faire le film officiel. Il y avait Milos Forman, il y avait Arthur Penn, il y avait Claude Lelouch. Et Claude Lelouch, on pense qu'on veut de son cinéma. Je suis pas là pour juger, je ne suis pas un spécialiste. Mais en tout cas, il avait choisi les perdants comme thème. Et j'avoue que c'est un film qui doit durer 20-26 minutes, puisque tous ces films étaient accolés les uns aux autres pour faire globalement le film officiel des Jeux. Et là, on avait effectivement des images et surtout des destins qui étaient tout à fait intéressants. Et je pense qu'effectivement, l'homme est faillible, l'homme est faible, et il va chercher dans le sport effectivement un certain idéal, des hommes qui sont meilleurs que lui, donc qu'il peut admirer. Mais aujourd'hui, je pense qu'en plus, ces hommes deviennent de plus en plus inaccessibles. Donc l'identification est de plus en plus compliquée. À l'inverse, du côté du plus faible, du côté du perdant, on trouve parfois un certain nombre de réponses tout à fait intéressantes. Et de ce point de vue-là aussi, les Jeux Olympiques sont un spectacle intéressant à voir.
7-8, l'info du matin sur France Inter avec Jacques Pradel.
Les envoyés spéciaux de France Inter à Séoul nous envoient maintenant leur dernière carte postale sonore, histoire de revivre encore quelques instants les grands moments de ces Jeux.
Des joies, des peines, des bavures et des gags aussi. Boucherie et Bokhara s'endorment dans les vestiaires du canoë-kayak et ratent le départ de la finale dont ils étaient les favoris.
Bonjour, vous avez demandé le réveil téléphoné, il est 6h30.
Ça paraît aberrant, mais je pense que quand il y en a une rencontre aussi importante que les Jeux Olympiques, en fait, l'athlète n'a plus toutes ses possibilités émotionnelles et intellectuelles. En fait, il se concentre sur une course, il oublie les détails. En fait, Pascal lui s'est mis à dire c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, j'ai réalisé en fait que c'était vrai, sans qu'une course passait, mais on n'a pas vraiment réalisé que c'était la nôtre, en fait.
Des larmes, des drames, Brigitte Dédier, 3 fois championne du monde de judo, dont le genou cède en pleine finale.
La première fois que ça m'arrive d'arrêter un combat sur blessure, et en finale des Jeux, c'est vrai que je crois que c'est le pire, parce que dans ma tête, je ne saurais jamais si j'allais gagner ou pas. C'est vrai que perdre là-dessus, c'est vraiment frustrant.
Muriel Hermine, malade, qui rate la médaille d'or de la natation synchronisée.
J'ai l'impression que tout s'écroule. Très déçu pour moi, mais... Très déçu aussi pour tous les gens qui m'ont aidé, qui ont cru en moi, mon entraîneur, ma fédé, même le public. Je crois que beaucoup, beaucoup de gens attendaient énormément de moi, de la natation synchro, et j'ai pas été à la hauteur.
Et vous, héros à vous, Benoît Hemmermann, perdant ou gagnant ?
Il y en a énormément, mais j'avoue que j'ai toujours eu un faible pour les nouveautés. Mais comme dans la vie en général, quelqu'un qui... tout d'un coup ouvre une porte que les autres n'ont pas pensé à ouvrir. Gamin, j'avais été fasciné par Fosbury, qui était un sauteur en hauteur et qui, à l'inverse de tout le monde, avait décidé de sauter en présentant son dos à la barre. Et ce que tout le monde fait aujourd'hui, mais personne n'y avait pensé. Lui, il y a pensé.
Pierre Salviac a rencontré ce jeune Américain, Fosbury, qui mesure 1m95 pour 84 kg, qui est âgé de 21 ans, et il lui a demandé pourquoi il sautait de cette façon.
I've never been able to go any other way, and so.
Pour la simple raison que je ne suis pas capable de faire comme les autres, le rouleau ventral ne me convenait pas, et comme en 6 ans je n'améliorais pas mes performances, et bien j'ai cherché un autre style. C'était il y a 5 ans.
Then each year after that, I started to turn my head into the bar and go overhead first, like it is now.
D'autres athlètes vont-ils sauter comme vous maintenant?
Not too many. Once I get past,
vous savez, je ne crois pas. Quand on possède un style, on n'en change pas facilement. Par contre, beaucoup de jeunes ont adopté ma méthode, mais il leur faudra longtemps pour réussir. Quant à moi, eh bien, j'espère battre le record du monde.
It will take a while before they learn.
On ne peut pas dire que les Mexicains soient des fins connaisseurs de l'athlétisme, mais de voir un athlète comme ça sauter sur le dos, ça leur plaisait beaucoup. À chaque essai, ils faisaient olé, olé.
Richard Fosbury, vous pouvez dire quelque chose en français ?
Bonjour mes amis. Voilà, je crois que c'est très sympathique.
Merci à Nadia Comaneci, Christine Caron, Laura Flessel, Raymond Pointu, Michel Jazzy, Roger Bambuc, Benoît Emmerman et Johan Diniz. Et merci bien sûr à toute l'équipe du Cœur des Jeux, Anne Delaveau et Sophie Gilry de l'INA, Sophie Cheblin et Émilie Serfati de la documentation écrite de Radio France, et à Yon Stanica de RFI pour la traduction de Nadia Comaneci. C'était Le Cœur des Jeux, mixage Pierre Monteil, une série d'Aurélie Luneau et Gilles Davidas, en partenariat comme d'habitude avec la revue L'Histoire.
Et le père de Jean Boiteux vient de sauter dans l'eau au moment où son fils a touché. Le père de Boiteux a sauté dans l'eau tout habillé avec sa cravate, avec sa chemise, avec son pantalon. Et le père et le fils s'embrassent dans l'eau. C'est très émouvant.
C'était Les Médaillés du Cœur, la quatrième émission de la série Le Cœur des Jeux. Première diffusion le 17 août 2008 sur France Culture. À suivre.